Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Pour ça, Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Campus FM.
Bonjour et bienvenue sur Campus FM, c'est Lou et j'ai le plaisir de vous emmener avec moi dans un nouvel épisode de l'étudiant attendu, l'émission où l'on rencontre et découvre les acteurs, les projets et les idées qui rythment les quotidiens étudiantins. Il n'y a plus glamour comme entrée en matière, mais j'aimerais commencer cette émission en vous donnant un chiffre. D'après les données disponibles sur le site viepublique.fr, les services de police et de gendarmerie ont dénombré en 2024 plus de 122 000 cas de violences sexuelles, soit 7% de plus que l'année 2023. Parmi ces violences, l'écrasante majorité était perpétrée contre des femmes. Mais ce chiffre, en plus de ne concerner que les agressions signalées, est en réalité l'arbre qui cache la forêt. Car oui, les violences sexuelles sont le symptôme d'un système bien plus vaste de valeurs et de représentations qui ne se limite pas à une misogynie bas du front et explicite, et prend au contraire des formes beaucoup plus insidieuses, des formes qui s'ignorent parfois elles-mêmes comme violentes. Car les violences sexuelles se situent sur un spectre, celui des violences sexistes et sexuelles, ou VSS, un concept qui nous aide à comprendre qu'avant même d'être commise, cette violence physique est minimisée, normalisée, voire légitimée. Cela vaut pour ces perpétrateurs qui, pour rendre leurs actes envisageables, doivent symboliquement réduire leurs victimes à l'état d'objet, les rendre moins qu'eux, transformer en autres avec un grand A. Mais cela vaut également pour nous, la société qui voit tout mais n'agit pas en conséquence. Le constat est donc le suivant. Il existe une première violence, symbolique, qui sert parfois de marchepied à la violence physique. Et si celle-ci ne finit pas toujours par se manifester sur les corps, elle s'accumule dans les têtes, fait son trou dans les cœurs des bourreaux comme des victimes, et se sédimente au fond des esprits qui la naturalisent et finissent par l'accepter comme naturelle. Et bien sûr, les campus universitaires, vus à tort ou à raison comme des terreaux fertiles de progrès social, n'y échappent pas. Alors quel est l'état de la culture universitaire vis-à-vis du fléau des VSS? Comment les campus intègrent-ils la lutte contre ces violences, s'ils le font? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Martin Souyès des BATS. Bonjour Martin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Martin, tu es enseignant et formateur spécialisé en droit et en prévention autour des violences sexistes et sexuelles. Et dans ce cadre, tu interviens notamment dans les universités. Alors pour commencer, on va rapidement dérouler un peu ton CV, si tu le veux bien, pour qu'on te connaisse un peu mieux. Alors, quelles études est-ce que tu as faites pour devenir enseignant et formateur sur les VSS?
Alors, moi, à la base, je viens d'un parcours de juriste où j'ai fait une licence en droit et droit anglo-saxon, où je me suis intéressé donc au droit français, mais aussi au droit donc américain et britannique. À la suite de ça, j'ai fait un master en droit international et européen en anglais, puis j'ai terminé avec un master 2 en droit des libertés. Voilà. Ça, on va dire, c'est le parcours de ma première vie parce que, à la suite de ce master 2 en droit, je décide de me lancer dans une thèse. Sauf qu'en fait, au bout de plusieurs années, et surtout à cause du Covid, je vais me voir un peu restreint dans, on va dire, mes recherches, parce que je devais partir aux États-Unis, enfin voilà, bref. Et en fait, à ce moment-là, je suis en quête de sens, donc je me questionne et je décide de refaire un master 2, cette fois en sociologie, un master qui s'appelle Genre, Égalité et Politique Sociale, qui est à proprement parler le premier master en France qui s'intéresse aux questions de genre et à la façon dont le genre s'articule dans notre société, dans les institutions publiques, etc. Et à l'issue de ce deuxième master 2, je fais mon stage de fin de master à la métropole de Toulouse où je suis en charge de travailler sur une mallette pédagogique pour former les agents de la métropole sur les questions des violences sexistes et sexuelles.
Voilà, pourquoi, la suite de ça, pardon. Non, très bien. Pourquoi avoir choisi ce métier donc spécifiquement À quel moment est-ce que t'as fait ce choix?
Alors j'aimerais pouvoir dire que c'est parce que je me suis levé un matin et que face à toutes les injustices du monde, je me suis dit il faut faire quelque chose. Surtout que ça correspondrait bien à la mentalité d'un homme cis-hétérosexuel qui se sent de sauver le monde parce que c'est un peu le rôle qu'on nous vend, on va dire, dans la culture populaire en général. Mais non, comme la plupart des personnes qui se questionnent sur ces sujets-là, il y a généralement une ou des femmes qui ont apporté ces enjeux avant. Et pour le coup, moi, ça a été ma mère, bien entendu aussi mon père, mais ma mère, en fait, travaille dans une association pour femmes victimes de violences conjugales. Ce qui fait que j'ai été entouré très tôt de personnes qui étaient sensibilisées sur ces enjeux, des personnes que, au-delà de considérer comme les collègues de ma mère, sont devenues aussi petit à petit une famille. Parce que l'associatif, c'est toujours aussi replacer beaucoup d'humains dans un milieu professionnel. Et donc, c'est aussi voir ma mère agir, faire, et ses collègues aussi, hein, qui sont toutes des femmes, qui m'a donné envie peut-être de me poser des questions sur qu'est-ce que je pouvais faire à mon niveau et à mon échelle pour contribuer à lutter contre les violences sexistes et sexuelles, et pas que.
Alors, j'avais l'intention de mettre les pieds dans le plat, mais tu l'as fait avant moi. Comment est-ce que tu te positionnes, toi, en tant que formateur masculin sur les violences sexistes et sexuelles qui touchent quand même, on l'a dit, de manière écrasante les femmes?
Ben justement, ça a été tout l'enjeu pour moi, parce que c'est des questions à se poser. Comment est-ce qu'on peut parler? Comment est-ce qu'on peut former et sensibiliser sur des questions autour de violences que je n'ai jamais et que je ne vivrai sans doute jamais, hein, de toute façon? C'est toujours compliqué, en effet. Moi, ce que j'ai voulu apporter, c'est d'une part mon regard d'homme cis-hétérosexuel. C'est pour ça que j'ai décidé de me, former surtout sur la question des violences sexistes et sexuelles, et également sur la question des masculinités. Voilà. Qui est un sujet qui est en train de monter en puissance, hein. Et là, pour le coup, on a des choses très intéressantes qui sont écrites à ce sujet-là. Bon, pour moi, l'ouvrage de référence à l'heure actuelle, c'est celui de Stéphanie Lamy, qui a sourcé un peu les différents mouvements masculinistes à travers le monde, hein, et qui démontre à quel point, justement, les méthodes et la façon dont agissent les groupes masculinistes sont similaires à des groupes terroristes, hein. Voilà, bon, c'est très appuyé et très recherché. Ces travaux sont extrêmement poussés. Donc voilà, moi, je me suis dit, en tant qu'homme, qu'est-ce que je peux amener? Je peux amener des choses sur les questions des masculinités, parce que moi, je suis un homme cis-hétérosexuel qui a grandi, hein, dans les injonctions sociales à la masculinité. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand on a une mère qui est sensible et qui a toujours fait en sorte que je puisse m'exprimer, que je puisse pleurer, que je puisse tout simplement échapper à ces normes sociales, mais en fait, on se rend bien compte que de toute façon, on n'y échappe pas. Dans une société qui nous balance des stéréotypes en permanence, on ne peut pas trop s'y échapper. Et donc, le choix que j'ai fait, c'est de travailler aussi dans l'associatif, parce que je ne me voyais pas me lancer seul dans une aventure de formation, parce que j'aurais eu l'impression déjà de rentabiliser les violences sexistes et sexuelles, hein. Mais surtout, au-delà de ça, moi, j'avais besoin de travailler dans une équipe entourée de femmes, prioritairement, engagées avec des principes et des valeurs qui sont similaires aux miennes, pour que, justement, bon, on me dira, c'est toujours remettre de la charge mentale sur les femmes, mais pour qu'elles puissent justement m'orienter et me guider si, par moment, je perdais de vue quand même, le discours et la parole la plus importante à entendre, à savoir celle des femmes. Donc, c'est aussi un choix, hein, l'associatif, dans le sens où, pour avoir travaillé au planning familial également, c'est une expérience qui m'a permis de me dire que c'était là où je me trouvais le plus à ma place. C'est là où où je peux évoluer sereinement sans me dire que je ne serai pas surveillé dans mes actes et dans ma façon d'être. Dit comme ça, on dirait que je suis oppressé par mes collègues, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est moi qui leur demande d'avoir ce rôle vis-à-vis de moi.
Donc, deux questions en une. Est-ce que ton métier est parfois pas suffisamment pris au sérieux par certaines personnes? Et deuxièmement, est-ce que le fait d'être un homme aide, pour le meilleur ou pour le pire, à pallier ce problème?
Alors, c'est un métier qui est pris au sérieux, c'est compliqué. C'est-à-dire que, à la fois, c'est une réalité, les inégalités femmes-hommes. Je pense que si on va voir n'importe qui dans la rue et qu'on me pose des questions du style « Est-ce que pour vous, c'est la même expérience lorsqu'une femme rentre le soir tard et lorsqu'un homme rentre le soir tard ?» C'est rare qu'une personne va nous dire non. C'est la même chose. Voilà. Donc, en fait, c'est une réalité que je pense que la plupart des Français constatent. Hein. Je crois que selon le Haut Conseil à l'égalité, c'est plus de 93%, je crois, si je ne dis pas de bêtises, des Français interrogés qui constatent des traitements différenciés entre les femmes et les hommes. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois qui est une vérité, je pense, sur laquelle tout le monde peut s'accorder, mais à côté, en effet, c'est difficile d'être pris au sérieux. D'une part, parce que quand on parle de ces sujets-là, il y en a qui se demandent est-ce que c'est une priorité, surtout que quand on parle de ces sujets-là, on est obligé de parler de quelque chose de systémique, donc qui se retrouve dans les moindres détails de notre vie du quotidien. Et donc, constater qu'à l'heure actuelle, 91% des noms de rue en France sont des noms de rue de personnalités masculines, il y en a qui diront, c'est un détail, est-ce que c'est vraiment un détail? Ben non, il y a un enjeu de violence symbolique, de représentation. Et quand on part de là, ensuite, on peut détricoter pour aller vers des choses beaucoup plus problématiques, à savoir les violences sexistes et sexuelles, mais même si, il ne faut pas forcément faire une hiérarchie, il faut bien comprendre que c'est tout un système qui crée ces violences. Voilà. Et donc, Là où c'est difficile d'être pris au sérieux, c'est qu'on parle de sociologie. La sociologie, c'est une science. C'est une science qui se base sur des enquêtes de terrain qui peuvent avoir justement duré sur plusieurs années. Sauf que le problème de la sociologie, c'est que même si je vous donne un chiffre en disant que 90%, 99% des auteurs de violences sexistes et sexuelles en France étaient des hommes en 2022, chiffre du ministère de l'Intérieur, voilà, ben il y aura toujours des personnes, lorsqu'on intervient, lorsqu'on sensibilise, qui vont nous dire « Oui, mais moi, mon voisin, il dit qu'une fois, il y a une femme qui a été violente. » Et c'est ça qui est complexe quand on travaille avec la sociologie. C'est que c'est une science, mais là où on fera accepter beaucoup plus facilement aux gens que 2 plus 2 égale 4, faire accepter des statistiques aux gens qui ont été sourcés sur plusieurs années, c'est plus compliqué.
Eh bien, je ne peux qu'applaudir car je suis moi-même détentrice d'un master de sciences sociales. Donc, on va rentrer dans le dur du sujet. Est-ce que tu peux nous donner la définition rigoureuse des VSS telle que tu la donnes dans tes interventions ?
C'est très compliqué de donner une définition rigoureuse des VSS parce qu'on pourrait s'appuyer sur le cadre légal et expliquer que voilà, il y a plusieurs formes de violences sexuelles qui sont recensées à l'heure actuelle par le code pénal et même par le code du travail, hein, parce que c'est des choses qui sont pénalisées dans un cadre professionnel aussi. Donc je pourrais parler de l'outrage sexiste, je pourrais parler du harcèlement. Le harcèlement, il se divise en pleine forme. Il y a le harcèlement qui se caractérise par une répétition. Il y en a d'autres, c'est juste le caractère tellement problématique d'un comportement qu'on ne va pas attendre qu'il se répète pour le condamner. Il y a l'agression sexuelle qui consiste à tout simplement toucher de façon non consentie une des 5 zones définies par la loi, à savoir la bouche, la poitrine, l'intérieur des cuisses, le sexe et les fesses. Et pour finir, il y a bien entendu le viol qui se définit comme un rapport sexuel non consenti. Là, on va parler de pénétration, mais pas que. Hein. On va parler de rapport bucogénital également. Le fait que le rapport bucogénital soit considéré comme un viol, c'est depuis 2021. Hein. Donc c'est quand même assez intéressant de voir à quel point la loi évolue lentement. Hein. Parce qu'aujourd'hui, ça quand même paraît évident qu'on ne va pas classer un rapport bucogénital forcé de la même façon qu'une agression. Mais en fait, moi, quand je définis ces violences, à la fois le cadre légal m'aide à faire comprendre ce que c'est concrètement, mais moi j'aimerais aller au-delà du cadre légal, et c'est ce que tu as abordé dans ton introduction. C'est-à-dire qu'en fait il y a une culture du viol, et c'est en définissant la culture du viol qu'on pourra mieux définir les violences sexistes et sexuelles.
Donc est-ce que tu es d'accord par exemple avec l'utilisation du mot spectre pour parler des violences ?
Oui, on peut parler d'un spectre, on parle surtout d'un continuum, et là c'est l'autrice Kelly s'intéresse à ce terme qui dit qu'en fait, je parlais de hiérarchisation, bien sûr qu'on pourrait hiérarchiser les violences sexistes et sexuelles d'une certaine façon, c'est ce que fait le code pénal, hein, en mettant en place des VSS qui sont considérés comme des délits et d'autres qui sont considérés comme des crimes, donc il y a une hiérarchie, mais en fait au-delà de la hiérarchie, il faut comprendre que les violences sexistes et sexuelles, en effet, c'est un continuum, généralement qui sont vécues par des femmes en majeure partie, hein, tu l'as dit, et ce continuum, en fait, il faut comprendre qu'il fait partie d'un tout qui participe à des violences systémiques et qui participe surtout un système qui encourage, normalise ces violences. Voilà, cette fameuse culture du viol.
Et est-ce que la dichotomie victime-bourreau est pertinente ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est soit l'un, soit l'autre ?
C'est très compliqué à traiter parce qu'en fait, la question du bourreau, c'est qu'on pourrait se dire, il y a un bourreau, en tout cas, il y a une réalité, c'est que la plupart des auteurs de violences sont des hommes. Voilà. Moi, j'ai pas envie de grandir en tant qu'homme, en tout cas en me disant que je suis destiné à être violent. Moi, j'ai envie d'aller à l'encontre de ça, donc j'ai pas envie d'être vu comme un bourreau. Et en même temps aussi, je pense qu'il y a une réalité à laquelle il faut s'accrocher, c'est que moi, en tant qu'homme cis hétérosexuel, j'ai un parcours de vie qui correspond à celui d'un homme cis hétérosexuel. Ce parcours de vie, il ne m'a pas empêché de commettre des violences. Voilà. Enfin, en tout cas, j'imagine qu'en tant qu'homme cis hétérosexuel, j'ai pu véhiculer, encourager, ou en tout cas être complice de violences. Pourquoi ? Parce que le système dans lequel on vit normalise ces violences. Je parlais de la définition d'une agression sexuelle. Une agression sexuelle, c'est par exemple toucher les fesses sans consentement. Si je joue au foot avec des amis et que je mets un but et qu'il y a un pote à moi qui me tape les fesses, d'un point de vue juridique, on pourrait parler d'une agression sexuelle. Hein. Tous les critères sont remplis. Je m'y attends pas, on me tape les fesses. Et surtout, toucher les fesses de quelqu'un, c'est pas une partie du corps comme les autres. Voilà. Est-ce que ça veut dire que la personne qui me tape les fesses pour me féliciter est un bourreau ? C'est difficile de le condamner tout de suite. Et moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde où, parce qu'un pote me tape les fesses en pensant m'encourager, je lui dis « je vais porter plainte, je suis désolé ». C'est pas comme ça que je veux vivre. Mais la réalité, elle est ailleurs. La réalité, elle est que il faut aussi faire comprendre à cette personne que on ne touche pas les fesses de quelqu'un comme ça. C'est pas une partie du corps comme les autres. Et on pourrait même aller plus loin et dire que on a tous et tout un rapport au corps différent qui fait qu'on n'a pas forcément envie d'être touché, que ce soit les fesses ou ailleurs d'ailleurs.
Oui, et par dichotomie, je pensais aussi au fait qu'on peut peut-être être les deux à la fois. Quelqu'un qui perpétue les violences et qui les subit.
Bien sûr. Mais je pense que quand on est un homme, on subit le patriarcat aussi. Hein. On subit ce rapport-là où on nous encourage à nous comporter d'une certaine façon, où on vit des violences. Par contre, là où il faut faire très attention avec ce discours, c'est que oui, le patriarcat, fait vivre des violences à tout le monde. Par contre, c'est impossible de faire une symétrie entre les violences vécues par les femmes et celles par les hommes. Voilà. Et ça, c'est un discours qu'on peut entendre dire en tant qu'homme, on souffre, etc. Oui, on souffre tous et toutes de la société patriarcale. Par contre, nous, on peut en tirer beaucoup plus facilement des bénéfices et des privilèges que les femmes. Et ça, c'est une réalité aussi, et c'est pour ça qu'il faut le questionner.
Alors, on va un peu maintenant resserrer la focale sur le monde universitaire et sur les campus. À la demande de qui est-ce que tu interviens dans ces endroits-là? Est-ce que tu interviens dans des cours ou dans des séminaires?
Alors, j'interviens, généralement, ça dépend, mais c'est souvent dans le cadre des UE, en tout cas dans les cours, voilà. Donc, là, par exemple, je travaille avec une école d'ingénieurs, d'ingénieurs agricoles, où ben là, c'est dans le cadre d'un cours, d'un cursus que mes interventions se placent. Et ça, ça vient de la volonté de la responsable pédagogique, qui est également aussi la référente égalité de l'établissement. Et ça, c'est important de le noter. Généralement, les établissements où on peut faire des interventions et où il se passe des choses, c'est parce que derrière, il y a des personnes engagées qui font en sorte de faire vivre ces interventions et qui font en sorte, justement, qu'elles aient un impact. Pour donner un exemple, dans cette école d'ingénieurs en question, par exemple, c'est fait dans le cadre de TD, c'est-à-dire que mes interventions sont obligatoires, ce qui fait que ce n'est pas un CM comme les autres où on va pouvoir décider au dernier moment si flemme ou pas. C'est obligatoire, donc leur présence est notée. Ce qui est quand même, je trouve, important à préciser. Et à côté de ça, surtout, il y a une cellule qui a été créée pour prendre en compte, justement, les potentielles victimes qui pourraient émerger à la suite de telles interventions. Parce que quand on intervient sur les violences sexistes et sexuelles, on donne le pouvoir aux potentielles victimes de comprendre que ce qu'elles vivent, c'est pas normal. Donc, généralement, ce qui arrive, et c'est arrivé dans la plupart des lieux où je suis intervenu, que ce soit les collèges, les lycées, les universités, souvent, il y a des personnes qui, à l'issue d'une intervention, se rendent compte qu'elles ont pu vivre des choses qui ne sont pas normales.
Et d'ailleurs, comment est-ce que tu analyses le climat intellectuel au sein même des universités? Et par là, je veux dire, dans les administrations, chez les profs et aussi chez les élèves.
C'est très, très, très aléatoire. Ce que j'analyse surtout, c'est qu'en général, c'est souvent, il faut le dire, des femmes qui sont à l'origine de telles actions, ce qui est logique quand c'est des violences qui sont vécues généralement par elles. Donc c'est peut-être plus facile d'en prendre en considération les enjeux et l'importance. Et après, c'est aléatoire parce qu'en fait, il y a beaucoup d'idées reçues sur les personnes qui interviennent sur les questions de genre. Tu me posais la question tout à l'heure de moi en tant qu'homme, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Moi, je pense que c'est très clairement un avantage parce que quand les institutions voient un homme débarquer pour parler de ces sujets-là, à l'inverse de mes collègues qui sont des femmes, la réalité, c'est que moi, on va m'accueillir avec moins d'appréhension. Les femmes, il va y avoir tout de suite cette appréhension de quoi elles vont nous parler encore. Ah là là, c'est encore des féministes aigries, etc. Et ça, c'est un peu triste, en effet. Donc moi, ça passe par là.
Alors, est-ce que tu constates une différence aussi entre le public masculin et le public féminin dans la réception tes interventions?
Bien évidemment, oui. Oui. Mais mes interventions qui sont généralement le plus mal passées, c'est des interventions où il y avait soit exclusivement des hommes, soit majoritairement des hommes. Voilà. Et là aussi, c'est logique. C'est parce que quand on vient parler de violences qui sont vécues en grande partie par une certaine partie de la population, c'est beaucoup plus facile de convaincre les victimes de ces violences que les potentiels auteurs de ces violences. Voilà. Quand on est un homme, on n'a pas forcément envie d'être vu comme un bro, voilà, à juste titre. Pourtant, il faut aussi prendre du recul, je pense. Et quand on est une femme, je pense que quand on a quelqu'un qui vient mettre le doigt sur des expériences et des vécus qui ont été normalisés ou qui n'ont pas été problématisés, et un jour quelqu'un vient voir en vous disant qu'en fait, ces violences méritaient d'être dénoncées, méritaient d'être questionnées, c'est beaucoup plus facile de convaincre ces publics-là qui les ont directement vécues.
C'était « Crève le patriarcat » du génial groupe de riot punk toulousain Trolls, qui se revendique, comme je cite, « le Lego sur lequel le patriarcat marche et se défonce le petit orteil ». Vous êtes toujours dans l'étudiant attendu sur Campus FM, nous voilà de retour avec Martin Souyès des Bats, enseignant et formateur spécialisé en droit et en prévention autour des violences sexistes et sexuelles. Alors Martin, sur quel matériau est-ce que tu te bases pour préparer tes interventions, pardon?
Alors, la chance que j'ai, c'est que l'association pour laquelle je travaille, Artemisia, est à la fois un organisme de formation, mais aussi un bureau d'études. Donc, on est directement relié à un laboratoire de recherche qui est situé à l'université Jean Jaurès au Mirail. On travaille même littéralement dans la maison de la recherche, hein, nos bureaux sont là-bas. Donc, c'est vrai que ça permet d'avoir toujours un lien, on va dire, avec le milieu scientifique, la recherche scientifique. À côté de ça, on produit nos propres enquêtes de terrain, hein, notamment quand on travaille dans le milieu de la petite enfance, où on fait des observations dans des structures comme des crèches, des CLAE, etc. Mais généralement, on se base sur tout simplement les enquêtes qui sont sourcées et validées. Hein. Une grosse référence, c'est bien sûr les enquêtes qui sont régulièrement publiées par le Haut Conseil à l'égalité. Il y a également des centres de ressources comme Hubertine Auclair, hein, qui nous permettent de trouver des outils pédagogiques intéressants à exploiter auprès de tous les publics en fonction des âges. Voilà, donc ça, on s'en inspire pas mal. Et après, c'est des réflexions qu'on fait en équipe, auxquelles on réfléchit. Il faut savoir que vraiment, hein, dans le milieu associatif, de façon assez générale, on interagit beaucoup, on réfléchit beaucoup. Et en fait, c'est vrai que notre approche sociologique, elle se fait autant sur du point de vue des chiffres et de ce qu'on peut trouver en termes de violence sexuelle que aussi dans les questions qui se jouent au-delà, à savoir les questions de comment aborder des publics en fonction, je sais pas, des milieux sociaux, des rapports aux questions de domination, de genre, etc.
Et même s'ils sont largement minoritaires, les hommes aussi peuvent être victimes de violences sexistes et sexuelles. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans la sensibilisation à ces violences-là ?
Oui, c'est bien sûr, les hommes peuvent être victimes. Et en effet, nous, on ne le reniera jamais. On n'est pas là pour dire qu'il ne faut pas les prendre au sérieux, qu'il ne faut pas les considérer ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on dit, c'est en effet, il y a quand même une surreprésentation de victimes du côté des femmes. Et ça, quand même, c'est alarmant quand on voit les chiffres. Même du côté des hommes victimes de violences conjugales, dans beaucoup de cas, c'est des hommes victimes de violences conjugales de la part d'autres hommes, dans des couples homosexuels, par exemple. Mais également aussi, quand on parle des violences vécues par les hommes, hein, quand on dit que le patriarcat crée aussi des injonctions sociales vis-à-vis des hommes et des violences vis-à-vis des hommes, c'est généralement des injonctions et des violences qui sont perpétuées par des hommes aussi. Voilà. La pression à la performance sexuelle, ce qu'on appelle la fameuse masculinité hégémonique, c'est d'avoir ce modèle d'une masculinité qui serait, on va dire, le mâle alpha, comme on peut entendre parler, et qui serait l'exemple à suivre ou en tout cas à atteindre pour les hommes, mais qui est un exemple qui est totalement fantasque et surtout qui n'est absolument pas sain pour la santé des hommes et des femmes en général.
Et est-ce que les coupes budgétaires dans les universités et dans tous les organismes en général te font craindre pour l'avenir des formations sur les VSS ?
Bah oui, et puis de toute façon, ça fait un moment hein, qu'on craint pour tout ça, parce qu'en fait, malheureusement, d'en parler sur la question de prendre ce sujet au sérieux, c'est un sujet qui a tout le mérite d'être pris au sérieux parce que, par exemple, moi, quand je travaillais au planning familial et même encore aujourd'hui dans mes interventions, quand on parle des violences sexistes et sexuelles, malheureusement aussi, la réalité, c'est qu'on parle à des victimes. Parce que quand on regarde les chiffres et quand je fais les interventions, c'est inévitable que parmi mes publics, il n'y ait pas des personnes qui ont vécu des violences. Et donc, ces personnes-là, quand on leur donne le pouvoir de comprendre ce qu'elles ont vécu, de mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu et surtout de se sentir légitimes à parler, ben, ça crée une libération de la parole qui a lieu parfois juste après l'intervention. Donc, le nombre de personnes qui viennent me voir en me disant qu'elles ont vécu des violences, alors je tiens quand même à le préciser, hein, je fais ce métier depuis 3 ans, ça a toujours été des femmes qui sont venues me voir, hein, je le précise, je répète, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violences faites aux hommes et qu'il ne faut pas les prendre au sérieux. Mais c'est quand même intéressant de voir que la réalité, c'est que c'est les femmes qui libèrent la parole. Le fait est que il faut savoir comment gérer ça. Et moi, aujourd'hui, l'accompagnement, il devient difficile parce que moi, je fais juste de la formation. À côté de ça, je travaillais au planning familial où je faisais de l'accueil de victimes. Mais la réalité, c'est que moi, aujourd'hui, quand des victimes viennent me voir et que je leur dis il faut aller dans des associations qui aident les victimes, je leur donne des noms d'associations. Mais parmi les noms que je leur donne, il y a le planning familial, qui est quand même une référence territoriale. Mais on le sait, aujourd'hui, les financements font que les associations historiques, mais surtout nécessaires comme le planning familial, sont en train de mourir petit à petit. Et ça, c'est terrifiant. Voilà. Parce que derrière un sujet qu'on ne prend pas au sérieux, il y a des victimes qui sont réelles. Il y a des violences qui sont subies et il y a des tentatives de suicide. Il y a des violences qui sont continuées à être perpétuées. Et nous, on sensibilise. Mais l'enjeu, il doit se faire dans un maillage associatif où on peut justement créer, grâce aux associations, on va dire, des relais qui permettent, au-delà de la sensibilisation, d'aller prendre en considération les victimes. Dans les universités, on nous paye pour des interventions, mais parfois, quand on vient nous chercher, c'est parce qu'il y a déjà eu des problèmes. Nous, on aimerait intervenir à titre préventif. Parce que c'est ce qui est préconisé. Nous, on ne veut pas attendre qu'il y ait une histoire de revenge porn ou de violence dans un établissement pour que l'établissement se dise « Ah, ben peut-être qu'il faut faire venir quelqu'un. » On devrait faire venir quelqu'un avant même que ça se produise.
Donc, tu as aussi une formation en droit. Qu'est-ce que tu penses de l'introduction de la notion de consentement qui est toute récente dans la loi française?
C'est un énorme casse-tête, ça, sincèrement. Parce que sur le principe, bien sûr, qu'on a envie de voir une définition claire, nette du consentement. Mais comme ça a été justement amené dans beaucoup de livres aujourd'hui par des chercheuses, c'est que cette notion de consentement, le consentement, c'est quelque chose qui est aussi évident que complexe. C'est quelque chose qui doit s'apprendre dès le plus jeune âge, parce qu'on l'associe toujours à la question des violences ou à la question des enjeux sexuels. Mais en fait, le consentement, avant tout ça, c'est un rapport à l'autre qui se joue. Un enfant qui va prendre le jouet d'un autre sans lui demander la permission, c'est un rapport au consentement qui se joue. Il faut expliquer tout ça. Donc avoir une définition juridique sur le principe, moi ça me plaît, mais en fait derrière aussi, il faut savoir ce qu'on met derrière une telle définition et comment on définit un objet aussi nébuleux que le consentement.
Alors pour le mot de la fin, rapidement, est-ce que tu aimes ton métier ?
Oui, bien sûr. Sinon, je ne le ferai pas, très sincèrement. Parce que ce n'est pas avec ce métier que je vais me payer une Ferrari un jour. Voilà. Ça tombe bien, je n'aime pas plus que ça, les Ferrari.
Eh bien, merci Martin Souillès-Débattes d'avoir répondu à mes questions et d'avoir été avec nous pour cet épisode de l'étudiant attendu. Rendez-vous notamment sur le site de l'association Artemisia pour plus d'informations. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir été avec nous. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à aller écouter l'étudiant attendu deux fois par semaine sur la fréquence 94 ou sur le site campusfm.net et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à François Berchenko à la réalisation. C'était Lou au micro de Campus FM. Bon après-midi à tous et à toutes. À plus. Flew away into the sky, into the
Univox. Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Univox.